C'est inimaginable, mais nous allons nous séparer à la fin. En plus, quand Catherine Borgonnet, donc, qui organise ce regard critique, vous a invité, j'avais vu des tas de choses et je sais qu'on peut vous arracher des larmes facilement. Donc, Carole, je pourrais vous faire pleurer. J'aurais pu mettre de la musique sévillane, des andalous, ça aurait été terrible. Donc, comme vous l'avez compris, comme vous le savez, c'est la dernière séance de ce regard critique de Carole Desbarat et très logiquement sur un cycle qui était organisé autour du questionnement suivant, le cinéma dit-il autre chose? Évidemment, c'est là, après un long cheminement, hein, le cœur même de la question, c'est-à-dire quelle est la place du langage dans le cinéma. Voilà, c'est tellement prenant que je ne vais pas retarder plus longtemps la possibilité pour Carole de nous l'expliquer.
Bonsoir. Mais question larmes, il y en aura peut-être quand même. Mais peut-être pas que de moi. Ça, c'est possible. Je ne sais pas comment vous réagirez au dernier film qu'on vous présentera, qui sera un court-métrage. Donc, bonsoir. Effectivement, question de fond. Et question de fond, mais qui a traversé toutes les autres conférences d'une manière ou d'une autre. À chaque fois, j'étais en train de me dire non, non, il ne faut pas en parler de la question du langage parce qu'on va en parler après. Mais c'est le cœur du rapport au cinéma. Si on est un peu bête, on dit depuis que le cinéma est sonore, et en fait c'est le cœur du cinéma depuis que le cinéma existe. Je parle ici un peu intimidée parce que je parle dans la présence de Daniel Dehé, qui a animé ces mêmes regards critiques l'an dernier. Je n'étais pas là, mais j'ai déjà entendu Daniel ailleurs et je connais son talent et sa façon extrêmement brillante de dire des choses très, très érudites, très pensées, de manière accessible à tous. Donc je vais faire ce que je peux, mon cher Daniel. Et je te mettrai à contribution à la fin pendant le débat. Donc, par rapport à cette question du langage et du cinéma qui est traversé ou non par le langage, commençons par dire qu'il est traversé par le langage, point. Ensuite, on peut peut-être poser la question de savoir comment les cinéastes s'en débrouillent. Et comme vous l'avez compris, pour ceux d'entre vous qui êtes là depuis plusieurs séances, parce que je reconnais des visages, comment le spectateur est traversé par le langage? Parce que quand on réfléchit au cinéma, je crois que vraiment on se trompe si on n'a pas sans arrêt la question de la réception du spectateur en face. J'avais dû citer déjà la réflexion très belle de Nabokov à propos de la lecture, qui disait que c'était comme une montagne dont l'écrivain d'un côté et le lecteur de l'autre gravissaient les deux flancs. D'une certaine manière, le film, c'est la même chose. Nous sommes en train de gravir quelque chose qui a été préparé par le cinéaste et par son équipe, et nous l'interprétons à notre manière, mais quand même, le nid a été fait, la place a été faite par le cinéaste. Donc la question du langage est une question extrêmement épineuse, et certains cinéastes, et non des moindres, se sont vraiment attachés à cette question avec une violence parfois assez étonnante. Violence dans les deux sens. Violence quand ils n'arrivent pas à imaginer qu'on ne puisse pas mettre un commentaire long, fluvial, torrentiel sur un film, et au contraire, lorsque justement il se gendarme contre l'idée que le film se trouve encombré par du texte. Alors quand je dis que ça existait avant même le cinéma sonore, ben c'est très simple, observez un film muet et regardez combien les personnages parlent. Ils parlent beaucoup. On ne les entend pas, mais ils parlent beaucoup. Donc la question, effectivement, du verbe, du texte, du discours, est quelque chose qui traverse le cinéma depuis les débuts. Et en fait, c'est une question qui est pas, évidemment tout sauf technique, c'est évidemment tout sauf la question de l'enregistrement du son qui est en cause là, mais c'est une question de symbolique. Je partirai, comme je l'ai fait dans la première des séances critiques qui se sont passées ici, je partirai de Georges Bataille, qui disait une chose très forte, il disait « Je ne puis regarder comme libre un être n'ayant pas le désir de trancher en lui les liens du langage. » C'est-à-dire cette question de comment nous avons besoin de langage, comment nous sommes faits de langage, et comment en même temps, c'est en dominant ou en soyant clair, enfin en essayant, par rapport à la question du langage, que nous pouvons nous construire. Et ce qui est très curieux, c'est que là, Bataille le place sur le plan du symbolique, au sens très fort du terme, n'est-ce pas, presque analytique, et les cinéastes, eux, fonctionnent autrement. Je parlerai beaucoup aujourd'hui de Jean-Luc Godard. On va voir un très beau film de Jean-Luc Godard qui est assez rare, et merci à la BPI de l'avoir trouvé. Je vous dis tout de suite qu'il n'est pas en très bon état. Mais c'est une telle rareté que je suis sûre que vous allez dépasser la qualité de la copie, parce que pour ce qui nous concerne, Catherine Langonnet et moi, nous disions ne pas l'avoir vu depuis, nous allons nous taire par pudeur, mais depuis très longtemps, effectivement, et c'est quelque chose qu'on se bat peut-être pour arriver à voir. Donc pourquoi Godard? Parce qu'il est peut-être celui qui est le plus clair sur la question. Lui, il le théorise, il le dit, il n'arrête pas de dire, c'est très simple, le mot, le texte, c'est, et plus précisément la littérature, c'est l'ennemi royal du cinéma. C'est l'expression qu'il prend, elle est tellement juste qu'il faut la garder. C'est-à-dire cette idée que c'est un ennemi à hauteur de soi et qui permet peut-être, dans l'émulation, d'arriver plus loin. Donc c'est pour ça que nous passerons du temps avec lui. Mais en même temps, d'autres cinéastes ont un rapport très difficile à la question du texte, du discours, du verbe, pour d'autres raisons. Je ne prétends pas, comme d'habitude, être exhaustive, je veux juste donner quelques pistes qui nous permettent d'approcher cette question. Alors, évidemment, il y a plusieurs explications à cette espèce d'antagonisme que l'on retrouve de manière récurrente, soit dans la théorie, soit dans la pratique des films. Et la première, c'est peut-être la plus simple, celle qui vient de ce qui s'est passé dans le XXe siècle, dans le monde occidental de l'art, de cette espèce de lutte contre, justement, contre la question du verbe, contre la question du discours et de sa prégnance. En particulier, je ne fais que l'évoquer, parce que ce n'est pas mon rôle ici d'approfondir des choses que je ne maîtrise pas, mais je voudrais quand même au moins le citer, la question du théâtre, bien évidemment. Pensez au XXe siècle, à tout ce qu'Artaud a fait contre le langage, lorsque, par exemple, il dit qu'il faut briser le langage pour toucher la vie, c'est-à-dire faire que le théâtre en particulier ne passe pas par le texte, même s'il peut en avoir besoin, mais que quelque chose du corps, quelque chose du cri, quelque chose du son et de l'espace traversé par les corps apporte un sens différent, bien sûr, de ce que le texte peut apporter. C'est quelque chose qui a traversé le théâtre et qui continue de le traverser. Il y a actuellement une pièce de John Fosse qui s'appelle « Un rêve en automne », qui est mise en scène par Chéreau, dans lequel il y a une phrase qui va tout à fait dans ce sens-là et dont la mise en scène de Chéreau au Louvre ne fait que l'exacerber. C'est à propos du sexe, et cette phrase est la suivante. Plus on en parle, et plus on parle de Dieu, et plus ce dont on parle disparaît. La question est là. Comment est-ce que les mots peuvent cacher les choses, ou au contraire, les montrer? Et je ne vais certainement pas vous donner une réponse, parce que ce serait stupide de ma part, je voudrais juste essayer de vous montrer comment différents cinéastes se sont battus avec cette question qui est essentielle, et qui est évidemment pas qu'une question de cinéma, qui est beaucoup plus largement une question de vie et de comment l'être humain se comporte, cet être humain qui est fait de langage. Donc, on est dans un paradoxe, c'est la deuxième explication, c'est que on est dans un cinéma européen en particulier qui accorde trop peu d'importance au son. C'est-à-dire que je pense que si vous vous souvenez des interventions de Daniel Dey qui vous a parlé de ces questions-là, vous voyez en quoi le cinéma parfois est un peu sourd. Les cinéastes ne se préoccupent que de l'image, du décor, du montage, des acteurs, du texte. Et puis l'ingénieur du son, il vient quand il peut, hein. Et parfois la bande sonore, elle est vraiment traitée par-dessus la jambe. C'est pas forcément mieux de l'autre côté de l'Atlantique lorsque le son est traité par ceux qui s'appellent des sound designers qui font des très belles choses sonores sans contact avec le réalisateur. C'est pas mieux. On souffre vraiment dans la question du cinéma d'un déficit sur la question du son. Donc vous voyez, d'un côté on a ce déficit sur la question du son et de l'autre on a une surpuissance de la parole. D'ailleurs il y a un film de Godard qui s'appelle Puissance de la parole, mais celui-là il était plus connu. C'est pour ça que j'ai choisi scénario de film passion. Donc, cette lutte du cinéma pour se détacher de l'origine littéraire, hein, parce qu'il y a eu ça dès le début, ça explique effectivement que ça fait retour. Plus vous refoulez, plus ça fait retour. C'est bien ça. Et que, effectivement, à partir du moment où le cinéma n'a plus été muet, qu'il a été sonore, il est devenu en fait parlant. Et du coup, vous le savez, il y a eu vraiment, dans le passage du muet au sonore parlant, Il y a eu des gens qui ont perdu des plumes. Il y a des gens qui ont disparu corps et biens parce qu'ils ne savaient pas comment parler, placer leur voix et faire avec cette donnée essentielle de l'être humain qui, jusqu'à présent, n'avait pas été utilisée par le cinéma. Alors, j'aimerais juste évoquer la lutte de Chaplin. Juste l'évoquer parce qu'elle est absolument... Elle est claire, elle est essentielle. Chaplin est le dernier cinéaste au monde qui a continué à faire des films muets alors que tout était sonore autour de lui. Et les critiques de cinéma disaient que ce qu'il y avait d'extraordinaire, lorsqu'on passait dans les studios, si on était près d'un plateau où Chaplin tournait, c'est qu'il y avait un bruit infernal. Alors que sur un plateau où le son est pris, vous êtes prié quand même, vous le savez, vous avez assez vu de making-of pour le savoir, vous êtes prié de vous taire, enfin de laisser quand même le son exister autrement que par le bruit des machines, des câbles ou des bavardages dans un coin. Alors que chez Chaplin, ça y allait, quoi. Et ça y allait très tard. C'est-à-dire qu'en fait, 29, on dit grosso modo, hein, pour aller vite, c'est l'arrivée du sonore, je dis grosso modo, parce que bien avant, la possibilité de mettre du son sur les films existait. En 1900, à l'exposition universelle, la société Tobis avait exposé des moyens de, justement, de prendre le son. Donc, bon, il y a un moment où les industries arrivent lorsque les sociétés en ont besoin. Je vous renvoie là au magnifique texte de Jean-Louis Comolli sur technique et idéologie. D'ailleurs, Jean-Louis Comolli, autre invité de ses regards critiques, finalement, Catherine Langonnet, vous avez vraiment fait le tour, comme ça, la boucle, hein, un petit peu sur les grands sujets. Et donc, c'est vrai que Chaplin a résisté. Il a résisté au-delà du raisonnable. C'est-à-dire que l'industrie a très vite... Je vous renvoie à Chantons sous la pluie. C'est magnifiquement expliqué dans Chantons sous la pluie. C'est un peu stylisé, bien évidemment, mais c'est vrai ce qu'il y a dans Chantons sous la pluie. Et Chaplin, lui, il continue à faire comme si ça n'existait pas. Pourquoi ? Il l'a dit, hein, il s'en est exprimé dans son... Il s'est exprimé sur ce point dans son autobiographie. Il a dit que pour lui, le cinéma devait avoir affaire à la pantomime, c'est-à-dire que ça passait par le langage du corps et qu'il n'avait pas besoin du texte pour faire passer les sentiments, les émotions, les révoltes, les indignations qu'il voulait mettre dans ses films. Et en fait, il y est arrivé petit à petit. Dans Les Lumières de la ville, il y a un petit sifflement. Dans Les Temps modernes, vous vous souvenez du moment extraordinaire où là, il est censé quand même chanter et il ne se souvient pas du texte. Sa compagne lui écrit le texte sur ses manchettes pour faire des petites, comment dire, des antisèches, hein, des antisèches. Et il a un grand geste et hop, les manchettes s'en vont. Ce qui est un excellent prétexte pour chanter avec des onomatopées. En fait, la résistance va aller jusqu'au dictateur. Et au dictateur, bah, là, c'est la seule chose qu'il pouvait faire qui passe de l'autre côté. C'est un engagement politique personnel contre ce qui se passait en Europe, contre Hitler et ce que Chaplin savait, il ne savait évidemment pas tout, mais savait de ce qui se passait en Europe, des camps de concentration, etc. Et là, il y a le grand discours du dictateur. Mais si vous avez l'occasion de revoir ce film, passez-vous cette séquence où... Le barbier qui est déguisé en dictateur, et c'est toute la force humaniste géniale de Chaplin de faire qu'un seul corps puisse à la fois dans un film être la victime et le bourreau. Le théâtre peut aussi faire ça, mais là vraiment c'est très très fort. Lorsqu'il monte justement vers le grand podium où il doit prononcer son discours, vous avez des roulements de tambour qui sont véritablement une procession mortuaire. C'est absolument terrible. On a l'impression qu'il va à l'échafaud et qu'il va mourir. Et lorsque il est sur sa chaise à attendre que les choses se passent, il est à moitié endormi. Et c'est lorsque le personnage qui interprète Goebbels parle justement du fait que les Juifs doivent être liquidés qu'il a les yeux qui s'ouvrent, les yeux se dessillent. Et à ce moment-là, quand il va se lever et qu'il va parler, eh bien, il va parler en tant qu'humaniste. Et c'est, on le voit bien, le plan est très rapproché. C'est Chaplin qui parle. C'est le réalisateur qui prend la parole face caméra et qui fait un grand discours que vous trouvez sur Internet et qui vaut la peine d'être relu. Parce qu'il y a des choses tout à fait intéressantes là. Donc, il a fallu ça pour que Chaplin se mette à passer du côté de la parole. Et après, Et il y a les longs métrages qui sont si méconnus et qui sont pourtant des chefs-d'œuvre absolus, qui sont Monsieur Verdoux, qui sont aussi Un roi à New York, qui sont des films extrêmement importants dans l'histoire du cinéma et qui, de manière assez incompréhensible, ne sont pas connus, peut-être juste parce que c'est tellement étonnant par rapport à ce qu'on connaît de Charlot qu'on hésite à voir à quel point ces films-là sont très, très, très importants. Donc, il y a eu Chaplin, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple, La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague qui a lutté, mais lutté, Godard en tête, Truffaut, Rivette, Romère, tous ces gens-là écrivent dans les cahiers du cinéma avant de faire des films. Ils sont dans le texte avant d'être dans le film. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ont lutté pour que la littérature et le cinéma soient considérés à égalité. Peut-être que maintenant ça vous semble relativement normal. Nous sommes dans un temple de la culture ici et nous ne parlons que de cinéma. Même maintenant, je ne suis pas persuadée que ce soit si évident que ça. Peut-être que pour toutes les autorités qui s'occupent de culture et de cinéma à l'intérieur des activités éducatives, ça n'est pas si simple et qu'il faut continuer le combat sur le sujet. Mais enfin, le fait est quand même que ça ne se compare pas avec ce qui se passait dans les années 50, lorsque les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague se sont mis en tête de démontrer par A plus B, c'est extrêmement argumentatif, que la littérature et le cinéma avaient la même puissance. Pourquoi ? C'est par rapport à la narration, et par rapport à l'idée du récit, et par rapport, évidemment, à l'idée de l'art. Ça, c'est effectivement un deuxième exemple possible de ces luttes pour dire le langage a sa place propre au cinéma. C'est là qu'on retrouve le texte de Romère qui dit « Le cinéma ne dit pas autrement les choses, il dit autre chose ». Et puis un troisième exemple aussi, auquel il faut rendre hommage, même si ça n'est pas du tout ma spécialité, c'est le cinéma expérimental. Le cinéma expérimental passe son temps à démontrer le contraire, à démontrer que le cinéma n'a pas besoin du tout de texte. Ou alors, s'il y a du texte, on le travaille sonorement, on le triture, on le change de manière à ce qu'effectivement, il perde son sens. Parce qu'en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas le son du texte, c'est le sens. C'est ça le problème. Comment le sens et l'émotion arrivent-ils au cinéma ? Est-ce qu'ils arrivent par le son ? Est-ce qu'ils arrivent par le verbe ? Il faut prendre le mot au sens le plus religieux du terme. Et là-dessus, les différences sont absolument sensibles. Alors, comme la dernière fois, je sais que j'ai exagéré. Je ne vous ai montré que de la fiction. Donc là, je me suis ressaisie. Je me suis dit, regard critique quand même. On m'a passé un contrat sur le documentaire. Je vais revenir au documentaire. Donc, et avec plaisir en plus. Donc, je voulais vous montrer un documentaire, enfin un début, juste quelques minutes d'un documentaire qui fonctionne complètement sur un rapport entre le texte, l'affirmation du texte et ce qu'affirme l'image et le son. Et en fait, le travail qui se fait là, c'est un travail de couches successives. Et on enfonce, et on rajoute en particulier au niveau du texte, aussi bien verbal, et vous allez le voir, que filmé. Et là, je vous parle évidemment d'un film de propagande, et je vous montre là le début d'une série qui s'appelle « Pourquoi nous combattons ?», que vous connaissez peut-être, que Frank Capra a faite, il n'a pas été tout seul d'ailleurs, pour le ministère des armées américaines, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où justement l'engagement dans la Deuxième Guerre mondiale avait besoin d'être signifié au niveau du peuple américain et qu'il fallait faire comprendre pourquoi on traversait l'océan pour aller se battre loin de là. Donc là, je vous avoue que j'y suis allée avec un enclume. Hein. C'est le morceau dans lequel vous avez tout. Le texte écrit, le texte parlé, vous avez des textes filmés, enfin bref. On vous montre donc ce beau morceau de propagande. Une période historique où il faut mobiliser les gens. On prend le maximum d'effets. Hein. Je veux dire qu'il y a Capra n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il y a tout. Hein. Les surimpressions, les accumulations, la musique, le montage de musique, ça y va. Ce qui est surtout très impressionnant, je trouve, c'est la superposition de différentes couches de texte. Le texte du commentaire, dont Pascal Bonitzer disait dans les années 70 que dans le documentaire, le commentaire, c'était le commentaire. comment effectivement empêcher la pensée de s'exprimer et l'assigner à résidence. Mais c'est aussi bien évidemment ce qui est filmé, le texte filmé, avec la mise en valeur d'une ligne sur laquelle on attire votre attention. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de mise en scène qui est là pour vous attirer sur le rapport que la voix de commentaire met sur ces images qui sinon aurait un sens difficile à déterminer. Bien sûr qu'il en aurait un de sens. Ça va de soi, ce sont des images de guerre, on s'y retrouverait toujours. Si vous êtes un peu avisé, vous voyez effectivement les croix gammées, donc vous faites un lien, mais vous ne faites quand même pas le lien qui arrive par le côté discursif de la chose. Mais c'est vrai que l'adéquation entre la voix et le fait de montrer le texte, là, ça atteint une espèce de densité maximale de référence au texte. Bien sûr, le documentaire a beaucoup évolué, y compris le documentaire idéologique, y compris le documentaire de propagande. La question de la voix de commentaire s'est largement atténuée. On la voit revenir maintenant un petit peu depuis une dizaine d'années dans le documentaire, mais sur une toute autre base, qui est la base de l'intimité, de la voix-jeu, de comment on se raconte soi-même. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas, pour ainsi dire, plus, je dis pour ainsi dire, par prudence intellectuelle, de documentaires dans lesquels vous avez une voix qui vous explique ce qu'il faut que vous voyez. C'est un gain appréciable dans l'histoire du documentaire. J'ai arrêté ce passage d'abord parce que je crois que vous en avez vu assez, on comprend, mais surtout aussi sur la cloche. Parce que, j'ai pas résisté, bien évidemment, cette cloche, elle nous rappelle les cloches dans un autre film de Capra, et c'est une façon de dire que un cinéaste, de toute façon, même dans un film de propagande, même dans un film de commande, il ne peut pas s'empêcher. Il met des obsessions personnelles. Vous vous souvenez, dans La vie est belle de Capra, effectivement, les cloches qui sonnent, qui sont reprises dans Breaking the Waves, 50 ans plus tard. Cette idée comme ça qu'un symbole peut valoir sens. Et alors évidemment, c'est autre chose que de dire les cloches sonnent. Là, c'est la cloche qui arrive avec son héritage religieux, avec son héritage d'appel au peuple, et qui est une véritable métonymie, en fait. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien au cinéma, et donc Capra ne se prive pas. Alors évidemment, ça a beaucoup évolué, le documentaire. On est limite à trouver ça presque ridicule. Encore qu'il y a quand même un souffle épique, hein, je trouve, dans cette façon de voir les choses. Mais celui qui a le mieux dit ça, c'est celui dont vous... Je pense que vous pensez à lui lorsque je parle de langage, de commentaires sur le film. C'est Chris Marker, bien évidemment. Et j'ai poussé le snobisme jusqu'à ne pas vous montrer des exemples très connus de Chris Marker dans lesquels il prend une bande image et il met des textes différents pour vous justement montrer que le sens change. Mais j'ai plutôt pris une citation de Chris Marker bien plus tardive, dans laquelle il a cette espèce de grande honnêteté intellectuelle à propos de « Le fond de l'air est rouge ». Il dit « Ayant en mon temps passablement abusé de l'exercice du pouvoir par le commentaire dirigeant, de rendre au spectateur, il est temps maintenant de rendre au spectateur par le montage son commentaire, c'est-à-dire son pouvoir ». Et c'est vrai que passer outre le commentaire du texte, fonctionner sur le montage, c'est faire naître évidemment du sens. Et le langage est toujours là, sauf qu'il n'est pas dans la bande-son du film, il est chez nous. Il est dans ce que Ignace de Loyola appelait la loquela, cette espèce de discours intérieur que nous avons sans arrêt, ça cause en nous. Et c'est vrai que Chris Marker, lorsqu'il dit ça, il marque une évolution, et pour lui, mais aussi pour le documentaire. Je voudrais vous montrer un contre-exemple. Un film que moi je trouve absolument extraordinaire, si ce n'est que, il y a tellement de textes dessus que vraiment, parfois, mais vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que ça le diminue un petit peu. C'est une proposition, je dis entre guillemets, parce que c'est comme ça que le film est présenté dès son générique, de Jeanne Crépeau, à propos de Ponette, le film de Doyon. Elle a eu l'occasion d'avoir les rushs de ce film, et elle a monté ses rushs pour nous les donner à voir. Vous vous souvenez certainement que lorsque Ponette est sortie, il y a eu un scandale, parce qu'il y a eu un prix d'interprétation pour la petite fille. Et les gens ont dit, mais enfin, c'est pas possible, petite fille, ça ne joue pas, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Ça n'est pas une comédienne. D'abord, un, elle est amateur, deux, c'est une petite fille. Alors vraiment, cumule les clichés comme ça, hein, deux en un. Et ce que fait Jeanne Crépeau, c'est qu'elle fait une démonstration que cette position-là est absolument idiote. Et que la position du festival qui a donné le grand prix d'interprétation à la petite Victoire Tibisol est en revanche une vraie reconnaissance de ce que c'est que le travail de comédien, et en particulier aussi au passage du fait que les enfants peuvent parfaitement être conscients de ce qu'ils font. Je vous rappelle ce dont il s'agit, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu Ponette, c'est un très beau film de Doyon dans lequel Xavier Beauvois, dont vous avez certainement vu Des Hommes et des Dieux récemment, Xavier Beauvois joue, il joue le père de la petite Victoire, et il joue aussi un veuf, c'est-à-dire que la maman de Victoire est morte au début du film dans un accident de voiture. Et tout le film est fait sur comment Victoire va lutter, Ponette, pardon, excusez-moi, le personnage de Ponette, va lutter pour faire son deuil. Faire son deuil à sa manière. Elle ne veut pas renoncer à voir sa mère, et tout le film va suivre ce travail-là. Et là, ce que nous allons voir, c'est des éléments qui sont pris dans la première journée de tournage. Donc, elle a, ma mémoire me trahit, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 ans, mais pas plus. Et donc, elle est sous la direction de Jacques Doyon. Il y a une assistante, bien évidemment une équipe réduite, parce que on essaie de faire simple. C'est Caroline Champetier qui est à l'image. Et elle joue avec Xavier Beauvois. Ce qui a un avantage, c'est que Xavier Beauvois, non seulement c'est un acteur, mais c'est aussi un réalisateur. Donc dans son rapport à une comédienne, il est évident qu'il va apporter quelque chose. Vous allez voir comment dans ce film-là, il y a une très grande présence du texte, du discours, et je vous laisse vous-même apprécier ce que vous en pensez. Si certains d'entre vous doutaient du fait qu'être un acteur, ça demande beaucoup de patience, un chef opérateur, un réalisateur aussi, je crois que là on a la démonstration, et encore, on n'en est qu'à 10-12 prises, hein. Tout à l'heure je vous montrerai l'extrait d'un film pour lequel la moyenne c'était 70 prises, donc c'est un travail, hein. Et elle fait un travail d'actrice. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir gardé la dernière séquence en couleur, donc on comprend sans qu'on nous le dise que c'est la séquence du film, qui a été montée à partir de prises différentes et construite au montage par Jacques Doyon. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il y a beaucoup de textes inutiles là-dedans. Il y a des tas de moments dans lesquels on a compris que c'est l'assistante qui parle, qu'on a compris ce qui se disait, puis il y a d'autres moments dans lesquels on n'entend pas, et c'est utile qu'il y ait du texte. Il y a des moments dans lesquels on ne sait pas où est Jacques. Et donc, s'il est à gauche, s'il est à droite, c'est pas mal de le dire, effectivement. Et les hypothèses, elles sont parfois assez inutiles, parce qu'en fait, elles ont surgi dans notre mental de spectateur. Et en même temps, à la fin, ce qui est dit comme conclusion sur, et c'est probablement vrai, le fait que, en observant cette petite fille, justement, Jacques Doyon a construit son récit et toute la résistance extraordinaire du personnage de Ponette, c'est probablement vrai. Donc, voilà un cas de figure dans lequel on a du texte qui aide vraiment la compréhension, qui aide à apprécier le film, et des moments dans lesquels on va dire, attends, laisse-moi quoi, laisse-moi, j'ai entendu, j'ai compris, et puis même si j'ai pas entendu, ça n'est pas grave. D'autant plus qu'on peut se poser la question, en tout cas moi, quand je regarde cet extrait, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne me parle pas de l'extraordinaire travail de Xavier Beauvois? Ce que fait Beauvois là-dedans est absolument admirable au plan d'acteur. C'est-à-dire, il n'arrête pas d'inventer pour répondre à la situation. Et il est extrêmement mobile, extrêmement plastique, il occupe l'image de manière tout à fait remarquable, il est aussi intéressant. Maintenant, le film est sur Ponette, donc effectivement, on comprend quand même que l'axe majeur soit mis sur elle. Mais à partir du moment où vous mettez du texte, vous figez un sens. Et donc, vous imposez justement le fait que vous êtes là en train de vous dire « Oui, mais j'aurais bien voulu autre chose. » Donc voilà un exemple dans lequel on a à la fois du commentaire, à l'ancienne manière, et en même temps traité d'une manière qui correspond aux années 2000, dans lesquelles effectivement on peut avoir ces hypothèses qui se font jour. Donc, pour dire que ça n'est pas si simple que ça, et que ça n'est pas intéressant de faire un mur absolument entre les films qui ont du commentaire, ceux qui n'en ont pas, ceux qui utilisent le texte et d'autres pas. C'est plutôt essayer de naviguer entre. Parce qu'en fait, la question est beaucoup plus profonde que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Parce qu'en fait, il faut aller à l'origine. Cette histoire de texte, par rapport à l'image, très profondément, ça nous renvoie à l'interdit de la représentation. Ça nous renvoie à quelque chose qui est constitutif de la civilisation occidentale et moyen-orientale. C'est quelque chose qui est présent dans les trois religions du livre. Tiens, par hasard, les religions du livre. Dans les trois monothéismes, la question de le rapport à l'image est extrêmement intense. Et je pense que c'est pas mal de revenir justement, sans mauvais jeu de mots, au texte. Et effectivement, se demander pourquoi, en fait, si l'interdiction hébraïque de la représentation reprise par la religion musulmane est en fait travaillée différemment dans le catholicisme et encore différemment dans le protestantisme, c'est quelque chose qui permet peut-être de comprendre comment le cinéma qui naît entre la France, je ne veux pas rentrer dans la bagarre sur savoir qui a inventé le cinéma, mais on va dire entre l'Europe et les États-Unis, donc dans le monde occidental, comment ce cinéma fait avec cette question de l'interdiction de la représentation, puisqu'en fait c'est un art qui rajoute un cran de plus à ce qui existait déjà. La photographie existait, la peinture existait, et là on rajoute le mouvement, on rajoute le montage et on rajoute le son. Donc on rentre davantage encore dans la question de la représentation et on va plus loin encore dans l'idée de la transgression. Donc en fait, si effectivement la question avait été réglée du côté des catholiques, par exemple en 787 par le deuxième concile de Nicée qui avait clairement tranché et donné la légitimité de l'image, le concile de Trente en 1563 avait fait un décret sur, ouvrez les guillemets, l'intercession des saints, l'invocation, la vénération des reliques et l'emploi légitime des images, c'est quelque chose qui, pour autant, n'a pas cessé de faire querelle, la preuve, la réforme. Puisqu'effectivement, tout ce qui est de l'ordre du protestantisme va prendre ses distances par rapport à l'image. Et précisément, le Concile de Trente va développer une politique d'image pour essayer de ramener ceux qui vont vers le protestantisme dans le bercail du catholicisme, c'est-à-dire se servir de l'incarnation du Christ et de la représentation de l'incarnation du Christ comme d'une arme presque de foi, si vous voulez, de propagande, ça dépend de comment vous envisagez les choses. Donc ces questions-là sont des questions très violentes. Je veux dire que ce qui s'est passé dans l'Empire byzantin à propos de l'image, les querelles à propos de l'image se sont soldées par des villages détruits. C'est pas une querelle qui est anodine du tout. Même si maintenant elle nous laisse un petit peu comme ça distant et on se dit c'est quelque chose d'intellectuel. Oui, souvenez-vous quand même, il y a les deux Bouddhas qui on a fait sauter parce que c'était de la représentation, effectivement, et que certaines personnes estimaient qu'on n'avait pas à garder des représentations aussi massives dans un paysage. Le fait qu'il y a des communautés qui veulent racheter des tableaux pour les brûler. Le fait qu'à Paris, à l'espace Saint-Michel, il y a eu une bombe lorsque la dernière tentation du Christ est passée. Il y a de temps en temps des résurgences qui sont assez violentes sur cette question. C'est juste une façon de dire que ça nous traverse, cela nous fait, nous sommes tissés de cette question-là. Il n'y a pas que le cinéma qui est traversé de langage, nous aussi, nous sommes traversés d'images et de langage et de leur interdiction. Donc si je prends le point de départ et les textes bibliques, je prends juste, ça va être très très court, une des plusieurs récurrence de l'interdiction de l'image, mais revenons au texte. Le décalogue, c'est l'Exode 20. Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est la première interdiction. Et la deuxième, « Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas ou dans les eaux, au-dessous de la terre. » Ça vient en deuxième position. C'est dire l'importance symbolique de la question de l'interdit de la représentation. Et en fait, un petit peu plus loin, toujours dans l'Exode, mais Exode 33, il y a un passage qui est très beau, Moi, je prends la Bible, pardonnez-moi, mais depuis une position qui n'est pas une position croyante, mais une position d'étude scientifique, je dirais. Pour citer mes sources, c'est la Bible de Jérusalem que j'ai prise comme référence. Moïse sur la montagne, Yahvé dit... Non, pardon, c'est Moïse. Mais dit-il... Non, Yahvé. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut ne me voir et vivre. Yahvé dit encore... Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut la voir. Et là, c'est une façon narrative de parler de cette interdiction. C'est-à-dire, on décrit la scène dans laquelle Moïse va être préservé de cette image qui le tuerait s'il le voyait. Et en fait, cette question de l'interdit de la représentation telle qu'elle apparaît dans la Bible, elle est une façon de parler du retrait de Dieu, de comment justement le retrait image de Dieu est ce qui le rend sacré, parce que reste le son justement. Et là, spéciale dédicace pour Daniel Dehé, un passage donc de la Genèse maintenant, c'est 3, la chute. C'est une chose absolument extraordinaire. C'est donc Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Et voilà le passage. La plus belle chose que je connais sur le son. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent percevoir que des pas sur des feuilles. La question du son est ici mise en place pour justement dire que le son peut être donné, l'image est retirée. Et c'est précisément cette image retirée qui fait le fondement de l'interdit mosaïque de la représentation. Là où, et je m'arrête parce que je ne suis pas assez savante pour continuer sur ces questions-là, mais vous voyez bien, là où l'incarnation du Christ est au contraire le fait que justement l'image est donnée par le corps du Christ à tous ceux qui croient dans la chrétienté d'une part, le catholicisme en particulier, puisque vous savez que le protestantisme prend ses distances par rapport à ça. Et c'est ce qui nous amène à Godard. Godard a une culture protestante, je ne me permettrai pas de dire que Godard est protestant, je n'en sais rien, mais je sais en revanche qu'il a vécu dans une famille protestante et qu'il est traversé de cette culture et que c'est quelque chose qui a forcément d'une manière ou d'une autre influencé son cinéma. Dans le film, en fait, scénario du film Passion, il se colle frontalement à ce qu'il a traité pendant toute sa carrière et qui l'a animé. Je vous avais dit au départ qu'effectivement j'avais pris son expression l'ennemi royal, quand il parle de la littérature et qu'il dit que c'est son ennemi royal. Mais c'est beaucoup plus que la littérature. C'est la question du texte versus l'image. C'est la question du verbe versus la représentation. Et dans ce film-là, il en parle frontalement. Il parle de certains des textes que je viens de vous lire, il parle de la Bible, et il parle aussi d'un scénario qu'il est en train d'écrire. Sauf que je vais vous laisser voir le film, mais je vous donne deux dates. Le film Passion est sorti un an avant le scénario du film Passion. C'est-à-dire qu'en fait, en acte, Godard prétend que ça ne sert à rien d'écrire un scénario, parce qu'on peut faire un film et écrire son scénario après. Je vous laisse voir le film. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour que quelqu'un retire une copie de ce film. Mais vraiment, ce serait d'utilité publique. Vous voyez pourquoi la lutte, qui est physiquement celle de Jerzy, qui représente le réalisateur dans le film, Jerzy, avec l'ange, c'est la lutte de Godard avec les mots. C'est des choses qu'il met en place et dont il fait l'inverse de ce qu'il annonce. Il dit qu'il voit d'abord et qu'il ensuite il écrit ou qu'il dit les choses. En fait, il dit d'abord que la jeune fille arrive en fleurs et on la voit après. C'est ce qu'il fait dans Le Mépris aussi. Il y a, vous en souvenez certainement, il y a le filmage d'une ligne de texte, comme chez Capra, qui annonce effectivement la mort de Camille. Mais il y a d'abord le texte et après, il y a l'accident. Et donc, il passe son temps à dire des choses, à faire l'inverse. Et c'est peut-être aussi ça, la création, c'est d'essayer de se situer entre les deux choses. Et vous vous souvenez qu'il se posait la question de savoir si la loi arrivait avant, si on la voyait d'abord, ou si on l'écrivait d'abord, ce qu'avait fait Dieu. Et en tout cas, dans le Deutéronome 4, voici ce qui est écrit. « Il y avait, vous parla alors au milieu du feu, vous entendiez le son des paroles, mais vous n'aperceviez aucune forme, rien qu'une voix. » Et c'est vrai que c'est avec ces textes-là, avec cette matière-là, que Godard se débrouille et qu'il lutte. Et je trouve que c'est un de ses films les plus sincères et les plus forts. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile d'avoir cette image-là. C'est qu'effectivement, quand il dit « voilà le travail », c'est pas du tout une expression rapide. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que le cinéma de Godard, en tout cas, jusque dans les années, on va dire, 2000, c'est un 90, c'est un cinéma qui a beaucoup travaillé comme un artisan la matière qu'il y a entre l'amour, l'argent, le travail, comment on se situe entre ça. Et effectivement, quand il y a ces clignotements entre le blanc et le noir, la lumière et l'obscurité, dans lesquels il dit que l'amour s'inscrit, la passion s'inscrit, c'est très curieux de le revoir maintenant, parce que depuis on a vu les histoires du cinéma qu'il a faites, qui fonctionnent sur une palpitation très rapide de l'image, dans laquelle le montage fait que l'image bat comme un cœur, et on a déjà ça en germe là. Et c'est vrai que c'est totalement une posture, puisqu'il écrit un scénario d'un film qu'il a déjà tourné, oui. Et en même temps, il est en train d'écrire le scénario de ce film-là. Et c'est comme d'habitude chez Godard, il nous dit une chose, il en fait une autre. Il nous dit qu'il a écrit le scénario du film précédent et en fait, il est en train de faire devant nous ce film-là en le travaillant. Le rôle de la musique est essentiel, hein, il le dit. Il dit son amour pour la musique de type romantique. Et il y avait dans Passion un moment qui était, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de copie, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Il y avait dans Passion un moment qui était essentiel sur ce dont nous parlons ce soir, mais je vais essayer de vous le décrire. C'est Anna Chigoula, que vous avez vue là, qui est l'actrice, qui est en fait la femme de cet odieux magnat qui est, pauvre petit industriel, qui est Michel Piccoli, qui se trouve avec Jerzy dans une chambre, et il y a sur un poste vidéo de la musique. Et elle se voit filmée en train d'essayer de chanter comme nous chantons tous dans notre salle de bain ou dans notre voiture. Et ce qu'elle essaie de chanter, c'est le Et incarnatus est de Mozart. Et il est évident que le texte a à voir avec l'histoire, et elle chante avec une voix qui se casse, et elle chante avec une voix fausse, et c'est quelque chose qui est absolument bouleversant. Parce que l'incarnation est là, à travers cette voix qui, justement, n'arrive pas à se trouver. Et c'est un des très très beau moment du cinéma de Godard, cette façon qu'il a de mettre une femme qui cessait à incarner la chair, la voix, le réel, et il joue avec ça sans arrêt. Et c'est quelque chose qui traverse toute l'œuvre de Godard. Ça va depuis une pochade que vous avez peut-être vue, qui est un truc formidable, mais vraiment extrêmement drôle, et c'est une toute petite chose, Histoire d'eau, EAU, hein, qui l'a fait avec Truffaut. Un jour, dans le tout début des années, c'est dans les années 50, la fin des années 50, il y a eu des grandes inondations, il a pris des stock shots, des images d'archives de ces inondations, et puis il a pris une actrice, et puis il a pris Jean-Claude Brialy, et il a fait un mixte entre les images d'archives qui montrent des grandes étendues complètement recouvertes d'eau, et puis une petite bluette entre cette actrice et Jean-Claude Brialy, où le commentaire dit autre chose que ce qu'on voit. D'une certaine manière, à cette époque-là, il faisait « Pourquoi nous combattons de Capra ?» Pas pour des raisons idéologiques ou de propagande, mais c'était la même chose. C'était prendre des images, leur mettre un texte dessus qui les transformait complètement. Alors que là, on est dans les années 90, il est dans une... C'est de la glaise, quoi. Il modèle une glaise, et je crois que c'est ça qui fait que c'est un des plus grands artistes qui soit. C'est cette façon de se risquer dans le travail de la matière, le travail avec ce qui lui fait peur. En fait, c'est ça qui est touchant. C'est que il est en train de s'affronter à la question du texte, donc à la question de ce qui est visible ou invisible, et la question très profonde du rapport qu'il peut avoir au monde, à la métaphysique, à Dieu. Ça ne nous regarde pas, mais c'est quand même ça qu'on le voit faire. Et c'est assez fort, je trouve, de voir à quel point il prend des risques. Et je trouve que les dernières secondes de ce film, juste avant le plan de ciel, cette espèce de litanie extraordinaire, c'est d'une émotion fabuleuse, parce que il fait l'inverse de ce qu'il a dit pendant tout le film. Il fait naître dans nous l'image mentale de ces soldats, l'image mentale de tout ce qu'il évoque, parce qu'il l'évoque comme un poème. Et d'une certaine manière, ça renvoie au mépris. Vous vous souvenez tous du mépris. Et mes fesses, tu les aimes mes fesses. Et mes jambes, tu les aimes mes jambes. Or, si vous regardez de nouveau chez vous le film, faites-le, vous constaterez que quand elle dit mes jambes, la caméra n'est pas sur les jambes. Quand elle dit mes fesses, la caméra n'est pas sur les fesses. Et qu'effectivement, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, Godard est quelqu'un qui joue, au sens le plus fort du terme, au sens où on peut dire qu'un enfant joue. Et ce n'est pas péjoratif. Vous avez vu comment on peut respecter Ponette et cette petite victoire tout à l'heure. Eh bien, il joue avec ce qui peut être de l'ordre de... Oui, de ce qui le défie. De ce qui... lui fait mal, peut-être, ça j'en sais rien, mais en tout cas, qui est quelque chose avec quoi il n'a pas fini de se battre. Et nous nous battons avec lui. Je voudrais passer maintenant à un autre exemple d'un cinéaste qui a un rapport aussi violent que Godard à la question du texte, à la question du langage, mais totalement différemment. Mais vraiment, on est dans un autre monde, mais c'est tout aussi intense. Et c'est un très très grand cinéaste aussi, celui qui fait les 70 prises dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Kubrick. Kubrick est quelqu'un qui a passé son cinéma à se défier, non pas du langage au sens godardien du terme, c'est-à-dire les mots versus le corps, etc. Encore que dans l'exemple que j'ai choisi, évidemment en tant qu'affaire j'ai choisi l'exemple qui va dans ma démonstration, mais surtout au sens où le verbe, c'est quelque chose qui sert la pensée. Et que ce que défend Kubrick, c'est que le cinéma, c'est une expérience qui ne passe pas par la pensée. C'est une expérience qui nous prend corporellement tout entier, on a déjà parlé de ça dans d'autres de ces rencontres, et qui fait que nous sommes dans l'émotionnel. C'est pour ça que Kubrick est quelqu'un qui travaille tellement la matière musicale dans ses films. Je vais vous montrer, vous, ceux d'entre vous qui connaissent bien Kubrick, vous savez déjà quel moment je vais vous montrer. C'est dans Shining. C'est le moment où, vous vous souvenez de l'histoire, un hôtel Overlook qui est perdu dans les montagnes, perdu dans la nature, et coincé par les glaces, un trio, une femme, son mari, son enfant, sont des gardiens de cet hôtel. Et ils sont dans une position qui ressemble beaucoup, pour moi, à la position du rivage des Sirtes de Julien Gracq, c'est-à-dire une position obsidionale où on se dit « mais où est l'ennemi ? L'ennemi va venir, où est-il ?» Et donc, il y a la folie qui arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui déclenche la folie. Et tout comme dans d'autres films de Kubrick, la question de ce qui est de l'ordre de l'écriture est méprisée, là aussi ça va l'être. Souvenez-vous, dans Lolita. Dans Lolita, ce pauvre type... écrit des poèmes, où ça ? Aux toilettes, assis sur la cuvette des WC. C'est un exemple parmi mille autres. Les gens qui travaillent Kubrick vous trouveront d'autres exemples. Mais en tout cas, l'exemple que nous allons voir là, c'est un exemple de terreur, et c'est un exemple de terreur du texte et aussi de travail sur la violence. Parce que on a travaillé sur la tendresse, cette espèce de moment de grâce. Hein. Il y avait une citation de Simone Veil à un moment donné dans le film de Godard, La pesanteur et la grâce. On peut aussi travailler la question de la traversée du cinéma par le langage dans l'horreur. Je vous propose qu'on voit ce passage que vous connaissez certainement, mais vous allez voir, on a rarement montré avec autant de défiance comment un texte, ça pouvait être terrifiant. Vous allez voir, à un moment donné, il y a une contre-plongée sur le visage de cette femme qui découvre le texte que son mari écrit, parce qu'il s'isole pour écrire, on ne sait pas trop, un roman, croit-on. Et quand elle découvre la nature du texte, c'est pire que Saw 6 ou n'importe quel autre film d'horreur dont vous pourriez parler. Oui, oui, la vie n'est pas faite que de roses, hein, de lys et de roses, hein. C'est le cinéma non plus. C'est évidemment une acmé totale, hein, mais chez Kubrick, ça recouvre quand même une inquiétude, une vraie prise à bras-le-corps de cette question-là, avec beaucoup, beaucoup de distance. Un amour immodéré des femmes, comme vous avez vu. Cette pauvre Shelley Duvall, je crois, a eu quelques semaines d'hôpital psychiatrique après le tournage, tellement ça a été dur. Et ensuite, bon, disons ça, mais en même temps, on renvoie vers le dernier Kubrick tout de suite pour se rappeler que dans le Eyes Wide Shut, il y a un changement total du rapport de cet homme-là à la représentation des femmes. C'était juste pour mettre une parenthèse. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que Kubrick, lui, il va aller au bout de sa démonstration. C'est-à-dire que cet homme-là, qui est censé être un romancier, ne peut pas écrire. C'est de l'impuissance totale. Il n'est que dans le formel et le sens n'existe pas et ça ne passe pas par l'écriture. Kubrick, lui, va, en terminant son film, donner une preuve cinématographique. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de l'histoire, on dit à un moment donné que l'hôtel existe depuis longtemps et qu'il y a eu un gardien qui était fou, qui effectivement avait lui-même commis des exactions sur des gens qui partageaient l'hôtel avec lui. Et ce gardien, on se demande bien qui c'est. Et là, comme vous l'avez peut-être remarqué dans la séquence que je vous ai montrée, la caméra balaye en panoramique, à deux reprises, un mur couvert de photos. Le dernier plan du film, juste après la mort de Jack Nicholson, qui a été, je vous le rappelle, tué par son fils dans un labyrinthe, c'est un tout dernier plan du film, est une espèce de démonstration cinématographique de ce en quoi croit Kubrick. C'est-à-dire que le cinéma peut nous montrer des choses sans passer par le texte, ou presque. Cette démonstration, c'est-à-dire qu'en s'approchant de la photo, avec ce lent travelling doublé d'un zoom, ça fait que nous sommes obligés de voir que sur cette photo, le personnage qui est présent, c'est bien Jack Nicholson, nous le reconnaissons. Et le texte, le verbe, ne sert qu'à une chose, à une information pure et simple. Ça ne sert pas à donner l'émotion, ça sert juste à ancrer dans la réalité. Et l'émotion est arrivée par la combinaison entre ce travelling qui sert de preuve et la musique datée des années 20 qui effectivement est une deuxième preuve, elle, par le son, de, effectivement, du fait que cet hôtel est hanté et que dans ce récit-là, dans la réalité de ce récit, oui, effectivement, Jack Nicholson est un revenant qui revient hanter cet hôtel dont je vous rappelle qu'il avait été construit sur un vieux cimetière indien. Et là, on retrouve les grandes théories littéraires romantiques dans lesquelles les revenants ressortent des cimetières, effectivement, pour hanter les vivants. Donc voilà un exemple qui est certes dans une grande tension, mais c'est une tension extrêmement constructive. Et autant Chaplin a pu ne jouer avec le texte, le verbe, que lorsque l'idéologie l'y a poussé et son engagement. Autant Godard, lui, travaille cette opposition, autant Kubrick règle son compte comme il faut, à chaque fois qu'il le faut, à ce qui le gêne dans une conscience un peu, comment dire, un peu prétentieuse peut-être, de l'esprit qui gagnerait sur le corps. Voilà, c'était juste trois exemples, et avant de voir le dernier film que je voulais vous montrer, parce que je trouvais qu'il était important de vous laisser sur une touche de tendresse et de beauté. C'est un film très rare, c'est Le visage de Karine de Bergman. C'est un court-métrage de 12 minutes qui est assez peu vu et qui traite d'une manière complètement différente encore la question du langage qui traverse ou ne traverse pas le film. Ici, il y a toute la liberté de Bergman qui fait un film sur sa mère. Dans la première minute, vous allez voir, on sait que c'est sa mère, parce qu'il y a son nom qui est écrit, on sait qu'elle est morte. Et donc on comprend qu'on va avoir là l'hommage d'un fils à sa mère. Et c'est quelque chose dans lequel, c'est un film dans lequel Bergman s'autorise tout. C'est-à-dire qu'il prend une ligne sans commentaire, puis tout d'un coup il en met, juste un adjectif comme ça. Et ensuite, il va ne plus en mettre du tout. Il va dire, il va annoncer quelque chose en disant « Et maintenant, Karine se fond dans les photos de groupe. Et vous pensez qu'on va vous montrer des photos de groupe dans lesquelles elles se font. On vous en montre deux et puis il passe à autre chose. » Il y a une espèce de liberté dans l'utilisation du rapport au langage qui est très grande. Mais dans ce film-là, le langage est très en retrait. Il y en a très peu. Il est utilisé pour des valeurs émotionnelles. Et c'est l'ensemble entre la façon de montrer le corps de cette mère et le peu de mots qui en sera dit, qui fait peut-être, je ne sais pas pour vous, naître l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des fragments, vous voyez la main, vous voyez le sourire, des fragments de ces photos anciennes, de la jeunesse de sa mère, qui installent une mélancolie extraordinaire et dans laquelle on a affaire à un cinéaste qui est sur du... comment dire, le particulier, l'intime, quoi de plus intime que la relation à sa mère ou à son père, et qui en même temps le donne au spectateur. Je pense qu'on peut répondre à la question « Le cinéma dit-il autre chose ?» Moi, je répondrai oui, bien sûr. Je pense qu'avec ces 6 séances, on a vu à certains moments des émotions, des savoirs, des remises en question qui arrivaient parce que il y avait un certain type d'image organisée d'une certaine manière, si je paraphrase ce que Maurice Denis avait donné comme définition de la peinture dans le cinéma, mais surtout, surtout, parce que la façon dont nous sommes, nous, spectateurs, dans une salle, dans le collectif éphémère, fait que les actes internes dont parlait Valérie, qui se produisent en nous, sont de l'ordre d'une intelligence émotionnelle qui met en jeu le corps et l'esprit mêlés. Et d'autres arts peuvent le faire, certainement. Mais il me semble que c'est ça que nous venons chercher au cinéma lorsque nous acceptons de nous retirer du monde pour faire face à l'horreur, à la douceur, à la mélancolie, à la tendresse, au savoir, à la révolte, à l'indignation. Mais ce que ça fait d'autre, le cinéma, je crois que c'est le spectateur. Merci d'avoir été présent pour certains d'entre vous à plusieurs de ces séances. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis, je voudrais dire merci à Pierre, sans qui ces séances n'auraient pas été ce qu'elles sont. Pierre, c'est le projectionniste qui jongle comme un fou pour arriver à ce que vous puissiez avoir les extraits quand il le faut. Et surtout, merci à Catherine Blangonnet, parce que je ne croyais pas qu'il était possible qu'on donne une carte blanche à quelqu'un en lui donnant vraiment une carte blanche, en la laissant vraiment choisir les films qu'elle voulait, sans imposer quoi que ce soit. Et c'est un admirable exercice de liberté. Catherine va changer de tempo dans sa vie, ses émissions, sur France Culture, d'une certaine manière, puisque vous pouvez les réécouter sur la plateforme web de France Culture, à Culture Academy. Mais donc, ses regards critiques vont peut-être s'arrêter momentanément. En tout cas, c'est le dernier que tu avais programmé, Catherine. Et je pense que Daniel Day, qui est là aussi, se joindra certainement à moi pour te remercier. Tu as fait un tour autour de gens très différents, des grands, comme Oli, des petites, moi, et puis essayer de faire que le public, qui est celui de ces soirées puisse à chaque fois réagir différemment avec des regards critiques, les vôtres en particulier. Merci.